Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de VO Afrique pour votre émission préférée quotidienne à votre avis. Nathalie Barge pour vous accompagner, nous allons parler football aujourd'hui, notamment à la lumière de la cinquième édition du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2018. Avec cette question pour vous, comment mettre en valeur les joueurs locaux? Appelez en direct au 001 202 205 26 33 si vous souhaitez participer à l'émission. Cette question vous a été posée sur le Facebook de VO Afrique. Et pour y répondre avec moi, dans le studio, justement, notre expert en sport, Yacouba Ouédraogo. Merci beaucoup, Yacouba.
Merci
pour
à
cette
vous,
participation.
Nathalie.
Alors, avant de prendre des auditeurs, on pourrait peut-être revenir sur un bref historique du CHAN, hein, ça, je crois, a été annoncé, le CHAN a été annoncé pour la première fois en 2007. Il me semble que la première compétition, c'était 2009. Jusqu'ici, hein, très brièvement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce tournoi?
On va dire que c'est une compétition qui est la bienvenue dans le milieu footballistique africain, dans la mesure où on sait que pour la CAN, qui est la compétition très connue sur le continent, généralement, les pays font appel à des joueurs expatriés, donc qui vivent en Europe et dans d'autres championnats, en Asie et autres. Et donc, les joueurs qui évoluent dans les championnats locaux en Afrique, sur place, donc sur le continent, n'avaient pas trop de place dans ces équipes nationales-là. Et donc, cette compétition tombe à point nommé, dans la mesure où elle permet quand même à des joueurs qui évoluent dans les championnats locaux d'avoir une compétition sur le plan continental et donc un lieu pour exposer leur savoir-faire dans la discipline et pourquoi pas taper dans l'œil d'un recruteur qui vient certainement de l'Hexagone.
Donc, en fait, l'idée est vraiment intéressante parce
c'est une
compétition qui donne vraiment une chance aux locaux, comme on peut les appeler, et les internationaux, justement, ils ne peuvent pas y toucher.
Oui, les internationaux ne peuvent pas y toucher. Et quand on dit locaux, il ne suffit pas seulement d'évoluer sur le continent africain. Il faut jouer dans son championnat local. Et donc, si tu es un joueur burkinabé, il faut évoluer dans le championnat burkinabé pour pouvoir être sélectionné en équipe nationale locale burkinabé. Si tu es un burkinabé qui joue à Ouagadougou et tu es un burkinabé qui joue, par exemple, dans le championnat marocain ou bien égyptien, tu ne peux pas participer au CAN. Et donc, du coup, ça donne bien sûr de la chance à ceux qui évoluent dans les championnats locaux. Et donc, il faut être la nationalité d'un pays et évoluer dans le championnat de ce pays-là.
Et donc, c'est intercalé avec la CAN. C'est tous les deux ans. Et il semble qu'il y a le pour et le contre par rapport à cela. Je l'ai vu même dans les commentaires. C'est pas très populaire, le CHAN. On a le sentiment que c'est pas très populaire.
Tout à fait. On a le sentiment que c'est pas très populaire dans la mesure où les supporters ne se déplacent pas toujours au stade comme c'est le cas du CHAN. La fois dernière, on échangeait avec Amine Birou, qui est un journaliste marocain, qui nous disait que lors du match d'ouverture Maroc-Mauritanie, il y a eu au moins 30 000 supporters au stade. Mais le lendemain, à Marrakech, où d'autres équipes évoluaient, notamment la Côte d'Ivoire, la Guinée haute, la Côte d'Ivoire surtout, il n'y a pas eu assez de supporters au stade. Et donc, du coup, les populations locales ne s'intéressent qu'au match de leur équipe nationale et donc ça ne suffit pas très. Mais par contre, c'est une compétition qui est très suivie, notamment à la télévision et donc sur le continent.
Yacouba, est-ce qu'il y a des beaux matchs dans cette compétition?
Si, il y a de très belles rencontres. On a vu le Maroc face à la Mauritanie. C'est une très belle rencontre maîtrisée par les Marocains qui partaient déjà favoris et les Marocains qui ont quand même réussi à gagner 4-0. Il y a aussi des surprises quand on sait par exemple que la Namibie, qui participe au CHAN pour sa première fois, a battu la Côte d'Ivoire, qui est quand même une habituée des grandes compétitions africaines, 1-0. Et donc, pour un pays comme la Namibie, le CHAN reste vraiment une vitrine pour se faire voir, parce que c'est pas évident que la Namibie, par exemple, puisse se qualifier pour la CAN, qui est la compétition, on va dire, grande sœur du CHAN.
Est-ce que les grands patrons de clubs internationaux lorgnent un petit peu sur cette compétition ou pas du tout? Est-ce qu'on a des entraîneurs, des investisseurs qui suivent quand même et qui essaient de voir des nouveaux talents?
Tout à fait, il y en a. Déjà, vous savez que la plupart des entraîneurs de l'équipe A des différents pays africains se retrouvent au Maroc présentement pour superviser bien sûr les matchs, pour pouvoir détecter des talents qui vont injecter dans leur équipe nationale. C'est vrai que c'est des locaux, mais il y a de très bons joueurs. Et il y a aussi des recruteurs qui sont sur place, Amine nous le confirmait hier. Donc il y a des recruteurs qui sont sur place et qui observent, et sans doute des joueurs vont quitter leur championnat local après ce CHAN-là pour se retrouver en Europe.
On va prendre un auditeur en ligne, Univers Tchombé, qui est à Luanda en Angola. Il a écrit sur le Facebook de VO Afrique: cette compétition est là pour honorer les joueurs locaux, exposer leurs valeurs et satisfaire leurs besoins. Et je crois qu'on l'a en ligne, Univers. Ah, ce n'est pas le même auditeur, c'est un autre auditeur. C'est David Akumbu qui est au Mont Ibundji, au Gabon. Le Mont Ibundji, ça alors, c'est le plus haut pic du Gabon, n'est-ce pas?
Oui, oui, c'est le mont le plus élevé du Gabon.
1575 mètres.
Voilà.
Mais ça doit être très beau là-bas.
Oui, en fait, bon, la situation, il fait très beau, il fait pas chaud. Ouais. Malheureusement, le problème, c'est que le soleil se couche un peu très tôt ici, lorsque vous êtes à la capitale.
Vous parlez à une montagnarde aussi. Hein. Moi, je suis du Mont Blanc en France. Alors, David, on vous écoute.
Ah,
on écoute votre commentaire donc sur le Shan 2018.
Oui, je crois que le Shan 2018 est une compétition qui permet aux joueurs évoluant dans le championnat locaux de montrer de quoi ils sont capables, parce que le plus souvent, lorsqu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations, généralement ce sont les joueurs venant des pays européens, de l'Asie, des États-Unis qui jouent dans les championnats les plus élevés, qui prennent leur place au niveau de compétition, au niveau du regroupement des équipes, au niveau des États. Mais je pense que le véritable problème, c'est qu'effectivement, j'ai comme impression qu'on met beaucoup plus de la promotion de la Coupe d'Afrique des Nations, de grandes compétitions, alors que la CHAN, qui est une grande compétition aussi, il n'y a pas trop de publicité, il n'y a pas trop de bruit autour de cette compétition-là. Mm-hmm. Or, lorsque vous voyez comment les équipes évoluent, c'est vraiment des matchs de bonne facture. Mmh. Et généralement, les responsables de grands clubs viennent dénicher parfois l'oiseau rare au cours de cette compétition-là.
Mmh. Merci beaucoup, David. À très bientôt. On a un autre auditeur en ligne. C'est Apollinaire Seriabé qui est à N'Djamena et qui a écrit sur notre Facebook « Il faut bien les prendre en charge ». Donc il parle des joueurs, équipement, entraînement quotidien, sélection méritée. Apollinaire, comment ça va? Ah, eh bien, je ne sais pas si Apollinaire nous entend, mais on ne l'entend pas. Je reviens auprès de Yacouba. Yacouba, sélection méritée. Il y a quelque chose à dire là-dessus, sur la sélection méritée?
La sélection méritée, c'est-à-dire?
Ben, c'est la question que je vous pose. Il parle d'un entraînement quotidien, une sélection méritée. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait des sélections qui ne sont pas méritées?
Ou non, pas vraiment. Toutes les sélections qui se retrouvent à ce champ-là sont méritent leur place. Et donc, il y a d'abord les éliminatoires. Et puis ensuite, c'est vrai que cette année, la compétition a été attribuée au Maroc parce que le Kenya, qui précédait, en fait, auparavant, il devait l'organiser, n'y arrivait pas, compte tenu, bien sûr, de ce qui s'est passé dans ce pays, notamment avec les élections un peu mouvementé là. Et donc, toutes les sélections qui se retrouvent à ce champ-là méritent leur place dans la mesure où ils sont passés d'abord par des phases éliminatoires. Et donc, on ne peut pas dire qu'une sélection ne mérite pas.
Mmh. Voilà. Alors, David a parlé tout à l'heure du tout-puissant Mazembe, de la Ligue d'Égypte, des clubs africains, en fait. Alors, les clubs africains, parce que bon, on parle toujours des clubs européens, des grands clubs qui achètent des joueurs, qui les payent des fortunes. Et finalement, est-ce qu'il ne serait pas possible, arriver à un moment donné, d'avoir un excellent club africain comme cela, qui pourrait, lui, acheter des joueurs étrangers? C'est une question financière, tout ça, en fin de compte, non?
Oui, c'est
Parce que la plupart des meilleurs joueurs sont africains.
Oui, oui, la plupart des meilleurs joueurs sont africains, seulement africains. Mais il y a quand même des clubs qui sont assez très bien structurés sur le continent, notamment les clubs maghrébins. Et ça s'est vu d'ailleurs récemment avec le Wydad Casablanca qui a remporté la Ligue africaine des champions. Et donc, ce sont des clubs, les clubs, disons, de l'Afrique du Nord sont très bien structurés et payent relativement mieux par rapport à l'Afrique centrale et puis voilà l'Afrique de l'Ouest et tout ce qu'on sait. Mais jusque là, ce n'est toujours pas évident pour un club africain d'attirer un grand joueur, bien sûr, venant d'un championnat européen ou je sais pas quoi, un championnat de l'Amérique du Sud et autres, parce que c'est vrai, il y a les questions pécuniaires qui sont là, mais il y a aussi, bien sûr, la question de la compétition. Pour être grand, il faut se frotter au grand, et donc c'est pas évident qu'un joueur qui a le choix entre aller en Europe et évoluer dans un club relativement grand et laissera ce club-là pour se retrouver en Afrique. Quoi.
Mmh. On a un autre auditeur en ligne, c'est Lenka Eratus, je crois, qui est à N'Djamena, qui a écrit « Les ministères en charge doivent veiller sur les joueurs dans tous les domaines ». On vous écoute.
Oui, bonsoir madame.
Bonsoir.
Comme je venais de souligner, Voilà, moi j'aimerais, n'est-ce pas, tout d'abord commencer par cet adage, voilà. Et avant de balayer ou de nettoyer la devanture de chez soi, il faut d'abord nettoyer la cour. Et ce joueur sont, n'est-ce pas, dans notre continent, c'est très appréciable, cette initiative est très louable. Normalement, nos ministères chargés du sport devraient, n'est-ce pas, prendre un engagement. Ce joueur du pays, alors pour qu'il fasse un bon travail, puisque s'ils ne sont pas tout d'abord vus dans ce continent, ils ne seront pas aussi vus ailleurs. C'est pourquoi c'est d'abord à travers leur continent que voilà, leurs noms sont reconnus partout et ils sont, n'est-ce pas, achetés dans les ligues européennes et que nous entendons aujourd'hui leurs noms par-ci, par-là.
Mm-hmm. Merci beaucoup, Lenka. Je voudrais justement citer le propos de Thierno Mardialo, qui est un propos, on va dire, contraire au vôtre. Et puis, je vais demander peut-être à Yacouba ce qu'il en pense. Alors, Thierno, il a écrit, il est en Guinée, hein, à Conakry, « Je ne vois pas l'importance de cette compétition vraiment », donc il parle du CHAN, « pour mettre en valeur le football du continent ». Nous avons beaucoup de compétitions. Nous avons la Ligue des Champions et aussi la Coupe de la CAF. Il dit, nous inventons des compétitions inutiles qui ne donnent aucun résultat. Yacouba.
Non, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit parce que une compétition, ce n'est jamais de trop, hein. Surtout en Afrique où c'est pas évident qu'on ait assez de compétitions comme il le dit. Mm-hmm. Mais déjà, le CHAN même a été reconnu par la FIFA qui tient désormais compte du calendrier, en fait, des matchs, hein, du CHAN dans le classement FIFA des sélections nationales A. Et donc, c'est pas une compétition de trop, ce n'est pas une compétition inutile. Il faut donner de la compétition aux joueurs. Et moi, ça me fait plaisir de voir des nations comme la Namibie qui se retrouvent à ce CHAN-là et qui se comportent bien dans la mesure où, dans ces pays-là, il n'y a pas de club, j'allais dire, de niveau africain en tant que tel, dans la mesure où on ne retrouve pas des clubs, par exemple, qui peuvent aller loin dans les championnats, en fait, dans les championnats, dans les compétitions africaines connues que sont la Coupe CAF et la Ligue africaine des champions. Par contre, lorsqu'il s'agit du CHAN, ce sont des sélections nationales et donc facilement un pays qui n'a pas des clubs aussi huppés que cela peut se retrouver à ce CHAN et donner de la compétition à des joueurs qui évoluent dans son championnat local. Et donc, c'est une très bonne compétition qu'il faut quand même saluer.
Mmh. Alors, je vais citer le propos de Alou Thierno Daf qui, lui, a écrit « Il faut beaucoup récompenser le football local, c'est-à-dire mettre des titres en jeu dans l'année », dit-il. Il y a le propos de Brahima Doumbia qui dit qu'il faut réunir les conditions, stade et argent, organiser des compétitions avec des primes. Et il parle de transparence. Tidiane Botegueba, qui est à Douala, lui dit qu'il faut les encadrer, les équipes, les motiver, puis les solliciter, mais avec le président de la CAF actuel, dit-il, je reste sceptique. Je me demande comment peut-on supprimer le prix du meilleur joueur africain évoluant en Afrique et par contre organiser une CAN 100% joueurs locaux. Yacouba.
C'est vraiment un paradoxe. Je pense que c'est une très belle interrogation. Du reste, hein, le président Ahmad Hamad, lorsqu'il a annoncé la suppression du prix du meilleur joueur africain, le ballon d'or africain, comme on le dit, évoluant sur le continent, il a dit qu'il ne voulait pas d'un ballon d'or de seconde zone et donc avoir un ballon d'or pour tous les joueurs et donc généralement remporté par les Africains qui évoluent dans les championnats européens et autres, et un ballon d'or qui est réservé strictement aux joueurs évoluant sur le continent. Ahmad a trouvé que ce serait un ballon d'or de seconde zone que de donner un ballon d'or en tenant compte du lieu, hein, où évoluent les joueurs. Ça reste quand même, c'est son opinion, il a ses argumentations, même si, avec quand même la suppression de ce ballon d'or du joueur africain évolué en Afrique, on se demande quand est-ce un joueur qui évolue en Afrique pourra obtenir ce ballon d'or africain global, dans la mesure où on suppose, hein, que les meilleurs généralement partent en Europe pour vendre mieux leur talent.
C'est sans doute pour ça qu'il a dit que c'était un ballon de seconde zone.
Oui, c'est pour cela que Ahmad a estimé que c'était un ballon d'or de seconde zone. Mais je partage quand même, personnellement, je pense qu'il fallait quand même maintenir ce ballon d'or pour le joueur, meilleur joueur africain évoluant sur le continent. Parce que la compétition, elle ne se base pas sur les mêmes critères, hein. Quand on évolue en Europe, déjà, on estime qu'on a peut-être on s'est suffisamment fait voir sur le continent pour être sélectionné, donc le meilleur parmi les meilleurs, même si ce n'est pas toujours vrai que tous les meilleurs sont en Europe. Et donc, ça allait être bien si Ahmad avait maintenu ce ballon d'or pour le joueur africain évoluant sur le continent.
On a un autre auditeur en ligne. Brahima Doumbia.
Bonsoir.
Au Mali, comment allez-vous? On vous écoute.
Voilà, je pense que le CHAN est une très bonne chose. Il faut prédiger cela parce que ça met en valeur nos talents, c'est-à-dire nos joueurs locaux. Mais le problème, il y a plusieurs problèmes qui mènent ces joueurs locaux-là, en quelque sorte, parce qu'il y a des clubs aujourd'hui de Ligue 2 ou de l'Europe, ou de Ligue 3, en quelque sorte, bon, qui n'ont même pas de stade, qui n'ont pas d'équipement. Pratiquement, c'est la rotation. Quand un club est sur le terrain, il doit attendre les environs de 15 ou 16 heures et revenir au stade. Donc, il y a ce problème de stade-là qui se pose. Il y a aussi, comme il a bien dit, l'équipement nécessaire. Les crampons, surtout. Il y a des joueurs qui partent avec eux-mêmes les crampons, alors que, en réalité, le point de vue, c'est la fédération ou bien le club doit mettre à la disposition de ces gens-là tous les moyens nécessaires pour qu'ils puissent jouer pleinement au foot. Et aussi, il y a la question sur les primes. Pratiquement, les primes varient souvent entre 2000 francs, 3000 francs pour un club. Quand je prends le cas d'un club que je connais, à Sikasso, le club Tata. Malheureusement, ces gens-là existent depuis plus de 10 ans, mais ils n'ont pas de stade propre à eux. Ils vont pratiquement tous se réunir dans un seul stade. Tous les clubs, pratiquement, de Sikasso, qui vont se réunir dans un seul stade et puis faire la rotation. Je pense que cela est un frein en quelque sorte pour l'évolution de ces joueurs-là.
Merci beaucoup. Merci, Brahima. Brahima, le manque de moyens, les infrastructures, les stades. Brahima, il a même cité les joueurs qui doivent se procurer leurs propres crampons, je crois. Hein. Il a parlé des primes également. Yacouba, est-ce que vraiment ce problème d'infrastructure joue selon vous énormément dans les compétences finalement sportives, on va dire, des joueurs africains?
Oui, oui, ça joue beaucoup parce que lorsqu'on apprend à jouer au football dans la rue, et vous prenez comparativement, hein, un jeune garçon qui apprend à jouer au football dans la rue et un autre qui apprend à jouer et dans les classes et sur le gazon, le rendement ne peut pas être le même. C'est vrai que je me rappelle encore d'un dirigeant de l'ex.
Mais les grands joueurs brésiliens, ils n'ont pas commencé comme ça.
Oui, oui, ils ont.
Ça suffit
la
pas.
Plupart des grands joueurs, même les Samuel Eto'o, ouais. Ils ont tous commencé dans la rue. Mais de plus en plus, le football devient moderne et donc généralement on allie sport et études. Et le football, ça se joue encore plus hein, sur les papiers avant de l'appliquer sur le terrain. Et donc, on tend vers une science et donc jouer le football dans la rue et se retrouver au haut niveau, c'est possible, mais de plus en plus, ça devient difficile parce qu'il y a des centres de formation modernes, ultra modernes d'ailleurs, qui naissent et qui encadrent des jeunes.
Est-ce qu'il y en a en Afrique?
Il y a des pays, au Burkina par exemple, que je connais bien, qui est mon pays d'ailleurs. Voilà, donc je connais un centre qui a été inauguré il n'y a pas très longtemps, peut-être 2-3 ans comme ça, et qui est vraiment ultra moderne. Ils ont deux gazons synthétiques, un terrain avec gazon naturel. Et donc, de plus en plus, il y a des centres ultra modernes qui naissent et qui permettent à ces enfants-là d'avoir un cadre vraiment moderne pour évoluer. C'est vrai, les problèmes qu'il a cités, ce sont des problèmes réels, mais je suis désolé, ça ne relève pas de la compétence de la CAF. Ce n'est pas la Confédération africaine de football qui va construire un stade dans un pays ou encore, je sais pas, et donner des paires de madres aux joueurs pour qu'ils puissent évoluer sur le terrain. Et donc ça relève de la politique intérieure de chaque État et de la capacité aussi des clubs à s'autofinancer.
On a un autre auditeur en ligne. Tidiane Botegueba.
Douala, la capitale économique. Bonsoir à vous, bonsoir à votre invité ainsi qu'à tous les techniciens de la VOA.
Merci, bonsoir. On vous écoute.
Oui, en tout cas, comme j'avais dit dans mon message, en tout cas, ça reviendra à la CAF, la Confédération africaine vraiment de football, de valoriser le football africain, vraiment en équipant les équipes avec vraiment de logistique, parce que comme disait votre invité, un joueur vraiment qui a commencé son football dans les rues, un joueur par exemple qui a commencé en Europe, en tout cas il y a une grande différence entre ces deux joueurs, parce qu'en Afrique ici vraiment on a manque de tout. Par exemple, si je prends l'exemple de nos championnats, par exemple de deuxième division, en tout cas, ce sont des championnats qui n'est pas beaucoup quand même équipés, même si c'est un peu valorisé. Mais en tout cas, ce sont des équipes, je veux dire, délaissées à elles-mêmes, contrairement à la Première Ligue. Donc, en tout cas, ça reviendra vraiment à la CAF et ainsi qu'aux fédérations africaines de football en tout cas de valoriser le football africain, parce que par exemple, même les grandes stars, par exemple Samuel Eto'o, les Drogba, les Yaya Touré, ce sont des joueurs de haut niveau. Par exemple, au lieu de terminer leur carrière, par exemple à Monaco ou bien à Chelsea, parce que c'est là que leur vraiment nom sont, devait dire, commencer à apparaître. Mm-hmm. En tout cas, c'est pareil encore de revenir ici, parce que si je prends l'exemple de l'année dernière, il y avait un match ici entre un club camerounais et un club tunisien. Par exemple, Florent Malouda jouait dans le club tunisien. En tout cas, le stade domicile de Douala ici, ce jour-là était rempli parce qu'il y avait vraiment un Florent Malouda dans ce stade. Donc, ça reviendra aussi, à mon avis, aux stars africains. Vraiment, eux aussi, ils ont quand même un rôle à jouer.
Merci beaucoup, Tidiane, à partir de Douala. Tidiane, mais en avant les efforts de la CAF finalement, hein, pensant que la CAF ne ferait pas assez d'efforts. Mais la CAF, c'est tout de même pas le même budget que la FIFA, n'est-ce pas?
Non, c'est pas le même budget que la FIFA et il ne revient pas à la CAF. La CAF a sa part de responsabilité dans la gestion du football africain, mais lorsqu'on parle de construire des stades, équiper les joueurs de matériel de pointe pour mm-hmm. pouvoir pratiquer le sport, ce n'est pas de la compétence de la CAF. Ça relève de la politique intérieure de chaque État. Pourquoi en Afrique du Nord, disons, ils réussissent à le faire tant bien que mal, mais ça piétine encore en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest surtout. Moi, je pense que ça relève de la politique intérieure de chaque État, ça relève de volonté de chaque État de le faire ou pas.
Avant de reprendre un auditeur, je voudrais citer quelques propos de nos Facebookers, Abdoul Salam Mamadou Issoufou. Alors, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, peut-être que vous saurez. Il est au Niger, à Niamey. Il a écrit « Je vous remercie d'avoir abordé ce grand sujet, mais malheureusement, je ne participerai pas puisque mes propos seront superflus vu l'appel que je dois lancer à la dite organisation de football. » Bon, on ne sait pas ce qu'il a voulu dire. On a Walker Lukadi qui est à Chikapa. Chikapa, c'est dans le Kasaï en RDC. On n'a pas pu le joindre. Merci à Roderick Diabonda qui nous a aussi donné ses coordonnées, mais on n'a pas pu le joindre. Ozana Teadoum qui est au Tchad a écrit « Cela nécessite juste des encadrements. Il faut offrir des cadres spécifiques, les canaliser et ils seront très efficaces, dit-il. » Bertin, Tom Nabel, je crois que nous l'avons en ligne. Il est à Moundou, au Tchad. Est-ce que c'est Bertin?
Oui, écoute. Vraiment, le sujet est vraiment important. Vraiment, c'est un domaine que mon pays est complètement en retard, si on le voit bien. Ce que je peux dénoncer, parce que les responsables en charge du football sont des mots du développement du football au Tchad. Dès que le financement est fait, c'est eux-mêmes qui détournent ces fonds. Et quand je parle de football au Tchad est devenu, ça prend un peu un caractère clanique et ethnique. Dès lors qu'on envoie les joueurs pour jouer à l'international, on sélectionne que des commerçants qui partent pour ramener leurs articles pour vendre sur le plan national. Et c'est ce qui entrave vraiment le développement du football au Tchad. Et là, un peu, on peut chercher un truc où on peut sélectionner, on va faire la sélection sur le niveau national, mais on reste seulement dans la capitale pour sélectionner le commerçant et les envoyer. Et voilà. Dès lors, les termes n'avancent plus dans le domaine du football.
Merci beaucoup. Bertin, je m'excuse, mais on arrive quasiment à la fin de l'émission. Je ne sais pas si on a d'autres auditeurs en ligne. Oui. Rapidement, on a Christian. Christian Djirabé. Au Tchad aussi. Bonsoir. Rapidement, Christian, on vous écoute.
Oui. Les locaux ont besoin d'encadrement, ils ont besoin des équipements et la volonté de ceux qui sont à la tête de nos équipes. Aussi, ça sera des matchs sous-régionales, ça sera d'être des équipes.
On n'entend pas très bien, Christian. Je voudrais prendre rapidement le dernier auditeur, très rapidement. On arrive au terme, il y a 15 secondes. Valentin, on vous écoute rapidement.
Bonsoir.
15 secondes.
Moi, je dirais pour ce soir, les jeunes locaux, il faut s'attirer à la maison.
Merci. Un grand merci, Valentin. Merci pour votre participation extrêmement rapide. À très bientôt. Au revoir.